quand j'ai posé les pieds au Spitzberg, la première pensée que j'ai eue, c'est je reviendrai ici. C'est certainement un univers qui est en train de disparaître. Voilà. Ceux qui vont dans les mondes polaires, ils ont qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Ça, c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer les narvals.
Nantes, décembre 2018. Bulletin météo. Le soleil peinera à percer au milieu des nuages. Vent sud-ouest, 35 km/h. Température, 14 degrés. Des pluies battantes sont attendues dans l'après-midi. Je me perds en cherchant à atteindre le nord de la ville. Je marche dans un sens, puis dans l'autre, et finalement, fais demi-tour. J'ai rendez-vous avec Benoît Clouet, ou plutôt avec l'un des versants de Benoît Clouet, celui qui arpente des vastes étendues polaires, silencieuses et toutes puissantes. À 3600 km de là, dans l'archipel du Svalbard, c'est le silence absolu, le règne du monochrome et du thermostat figé. C'est là que se rend Benoît Clouet, 3 à 4 fois par an, depuis 10 ans, pour photographier le monde animal polaire. Que cherche-t-il? Pourquoi repart-il? Quelles sont ces rencontres uniques qui l'attirent? Les photos de Benoît Clouet racontent l'attente, la rencontre, la brume et la poudreuse. Des paysages rendus vivants car observés, presque religieusement. Une seule précaution s'impose, vous prévenir que cette région est contagieuse.
Ça y est, j'ai retrouvé la phrase de Charcot, hein, celle qu'il écrit quand il vient ici. D'ailleurs, il a l'habitude de monter tous les jours. Et c'est une très belle phrase qui dit « D'où vient cette étrange attirance, si puissante, si tenace, pour ces lieux qui, malgré les fatigues physiques et morales, nous poussent toujours à retourner vers elles. » Oh, la glace qui a cassé. On ne voit pas où c'est, mais ça doit être une grosse glace qui s'est retournée là, parce que ça a fait un beau craquement.
Mon premier appareil photo date de mon bac, en fait. Mes parents m'avaient offert un petit appareil photo pour mon bac. J'ai commencé à faire quelques photos pas très loin de chez moi en Normandie. Et puis très vite, je me suis rendu compte que, un, ça me plaisait. Et que, deux, le petit appareil photo tout automatique à pellicule, ce serait pas suffisant. Et donc, Noël suivant, j'ai sollicité toute ma famille pour m'acheter mon premier réflexe, qui était un Nikon F601 à l'époque. Tout de suite, ce que j'ai voulu aller faire et voir, c'était la faune sauvage, la nature près de chez moi. Donc je me suis levé tôt le matin et j'ai commencé à parcourir la forêt pour aller à la rencontre des animaux. C'est comme ça que tout a commencé. Et donc ce que je voulais, moi, c'était retranscrire ces moments forts par l'image. Si on veut rencontrer des animaux, il faut être hyper silencieux et être hyper attentif à son environnement. Le silence, je crois, fait partie intégrante du photographe animalier. Donc c'est au-delà du fait que j'aime ça, c'est aussi une condition sine qua non de la réussite d'une photographie. Il y a plusieurs choses dans ce rapport au silence. Déjà, on n'a pas les mêmes sons en hiver et en été. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la progression où au mois de février-mars, il n'y a quasiment pas un bruit. Il y a de la neige partout. Éventuellement, les rennes que vous pouvez voir, ils marchent dans la poudreuse. On les entend pas marcher. Donc vraiment, c'est un silence, presque un silence absolu, quoi. Moi, j'ai déjà expérimenté le silence tellement fort que le seul son que j'entends, c'est la pression sanguine dans mes oreilles, quoi. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les animaux reviennent, les oiseaux reviennent, on a de plus en plus de sons qui arrivent. jusqu'à voir parfois entendre, quoi, non pas voir, mais entendre un peu de vacarme des oiseaux au pied des glaciers. Quand il y a des nuées d'oiseaux, les mouettes tridactyles ou les sternes arctiques qui braillent, là on est dans le sonore plus. Quand il y a un vol d'éder qui nous passe au-dessus de la tête, on entend le sifflement des ailes parce qu'on est attentif, parce qu'on est dans cet univers où on peut décortiquer, décomposer chaque son. Je me suis surpris l'année dernière, j'ai fait le calcul après, mais j'avais vraiment froid, c'est-à-dire qu'il faisait moins 30 et avec un vent de 5 mètres secondes, donc il faudra refaire le calcul, mais je pense qu'on ne devait pas être loin du ressenti moins 45, enfin vraiment, vraiment froid, et j'avais l'impression d'avoir des aiguilles qui me rentraient dans les doigts, quoi, donc ça me faisait vraiment mal. Et donc le rapport au corps, là, on le sent tout de suite. Et je me suis surpris à me parler moi-même, en fait. Première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je fous là, quoi. J'attendais un renard polaire qui n'est pas venu. Alors il y avait des rennes quand même dans le blizzard qui étaient là et qui se demandaient certainement ce qu'ils faisaient là eux aussi. En tout cas, moi j'étais impressionné de voir leur adaptation. Finalement, ils ne bougeaient pas, comme s'ils se transformaient en pierre. Moi, j'avais peut-être le sentiment aussi de commencer à me transformer en pierre, mais avec un peu plus de douleur, certainement. Donc le rapport au corps, ouais, il est fort dans ces moments-là, forcément, parce qu'on ressent toutes les douleurs qui arrivent, quoi. On n'est pas du tout adapté à ce type d'univers-là.
Quel est donc ce bruit bizarre, cette complainte que l'on entend là-bas sur la banquise? Je m'approche. Rien. Pas une âme qui vive dans ce désert de glace. Sur ma gauche, à l'horizon, le front glaciaire de la baie de Moonbukta. Devant moi, la mer gelée. Le son, plus intense, semble venir du fond des glaces. Même gelée, la mer bouge. La glace ondule sous mes yeux. Au contact de la terre ferme, l'eau gelée craque, grince, comme le bois d'un vieux navire.
Une fois qu'on a mis le pied dans le Grand Nord, on a envie d'aller toujours plus haut. et puis un jour, donc, j'étais chez un Norvégien dans les fjords de Norvège, là, à photographier les aigles. Et j'ai vu un petit flyer posé sur une table, écrit en norvégien, et dessus, il y avait une très belle photo d'ours. Retour en France, j'ai envoyé un mail.
Vous faites quoi? Ça se passe comment? Ça coûte combien? Et on part quand?
Et un an plus tard, j'étais au Spitzberg avec ce Norvégien qui organisait des voyages expéditions polaires. Et aujourd'hui, c'est un très bon ami et c'est aussi un partenaire. Donc voilà.
Prince Karls Forland, Nordostlandet, Liftefjord, Adventfjord, Polipinten, Kvitøya, Edgøya, Mofen, Nialesund, Longyearbyen, Moonbukta, Atvandalen, Sassendalen.
Ceux qui vont dans les mondes polaires, ils ont qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Quand j'ai posé les pieds au Spitzberg, la première pensée que j'ai eue, c'est « je reviendrai ici ».
Territoire du Svalbard. Population 2959 habitants. Découverte 1596.
Spitzberg, montagne pointue.
Base scientifique internationale. 39 044 km.
Il faut s'imaginer peut-être, pour ceux qui font un peu d'alpinisme, faut s'imaginer à 4000 mètres d'altitude au niveau de la mer.
78 degrés 54 00 nord, 18 degrés 01 00 est.
Donc un univers très minéral, pas de végétation, en tout cas de la végétation très basse.
Point culminant, New Totenpen.
C'est quand même une terre qui a une histoire riche. Il y a eu des chasseurs de baleines, hein, avec des guerres qui se sont menées entre les Danois, les Français, les Norvégiens, etc. Donc ils avaient chacun leur base. Et puis à l'époque, l'huile de phoque était quand même l'or de l'époque. Hein, c'est-à-dire ça se permettait d'alimenter en énergie et en éclairage un peu toute l'Europe. Donc il y a eu une grosse histoire autour des chasseurs de baleines, il y a eu des trappeurs aussi, des trappeurs qui étaient là pour chasser les phoques, les morses, les ours, pour les peaux, pour l'huile, etc. Donc il y a eu beaucoup aussi de... Je crois que le dernier trappeur a arrêté son activité il y a juste quelques années. Je crois qu'il était, bon, il était pas totalement fou, mais bon, voilà, il pouvait plus rester tout seul là où il était. Donc il est revenu en ville à Longyearbyen, qui est la ville locale qui fait 2500 habitants. Donc oui, Spitzberg, une histoire riche. C'est un endroit qui change très très vite. Le réchauffement climatique, on est percuté par le réchauffement climatique quand on va là-haut. Le recul des glaciers, c'est très net. Je dirais les paysages changent. On voit de moins en moins de glace. Ça, c'est très clair. C'est certainement un univers qui est en train de disparaître. Voilà. Mais par contre, ça reste toujours aussi beau. C'est une beauté brute, ça c'est clair, une beauté brute, une beauté minérale, exigeante, parce que ça reste un univers assez hostile, et que dans cet univers-là, on se rend compte qu'on est juste un invité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout adapté à ce type d'univers-là, ça c'est clair. Moi ce qui me plaît, c'est ce côté un peu absolu, quoi. Un peu absolu d'une terre brute, sans arbres, presque sans odeur. On a le regard qui porte loin, presque au-delà de l'horizon, et ça, c'est quand même c'est de plus en plus rare dans notre pays, en tout cas.
Côte est du Spitzberg en hiver. Je prends mon tour de garde pendant que mes deux camarades dorment sous la tente. Je marche seul dans la nuit polaire, le pistolet d'alarme à la ceinture pour me défendre d'un ours qui s'approcherait trop près de notre tente. La neige craque sous chacun de mes pas et j'ai l'impression que le bruit résonne à plusieurs kilomètres alentour, brisant ce silence absolu.
Je suis à la fois photographe et guide.
Jour 1, accueil à Longyearbyen dimanche soir vers 23h30.
Donc là je parle d'un voyage l'été quand on navigue sur un bateau qui s'appelle Isbjørn, qui veut dire ours polaire d'ailleurs. Alors l'aéroport, il est pas très grand. Faut imaginer la montagne. Une piste. Donc après on sort et quand on arrive dans le hall, bah, c'est pareil, c'est un petit hall. Et là, il y a un énorme ours polaire naturalisé qui se dresse sur ses pattes arrière. Donc généralement, c'est le premier ours que les gens photographient. Je n'ai jamais photographié celui-là, je tiens à le dire. Je me souviens très bien, la première fois, je prends mon sac, je vois le paysage et je prends 3 minutes pour descendre le long du fjord et faire une première image. Là, je m'en souviens parfaitement. Enfin, et puis voir, quoi. Voir. Sorti de l'avion, l'aventure commence, quoi.
Transfert en taxi vers le bateau où vous passez votre première nuit à quai.
On arrive généralement vers minuit, donc il fait pas nuit, à minuit au Spitzberg, il fait jour, donc dans une belle lumière, et là, on les met directement en Zodiac, parce que le bateau est au mouillage, mais donc il n'est pas au port. Ils doivent descendre une échelle en bois, ils arrivent à bord, et puis après, dès le lendemain matin, on commence la navigation. Donc là, c'est le moment un peu pénible, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément le pied marin et on a quelques heures de navigation pour monter un peu au nord et souvent, c'est le moment où le corps doit s'adapter à un environnement qui bouge. Hein. Quand on navigue et qu'on n'a pas l'habitude de naviguer, il faut que l'oreille interne se restabilise, que le corps comprenne ce qui se passe. On bascule de notre vie à l'occidental. On passe une journée dans un avion et paf, en un quart de seconde, on se retrouve dans un Zodiac et on embarque. Quoi. Et donc, pour faire la coupure et d'un seul coup basculer dans un rythme qui est plus lent et se laisser porter, c'est compliqué. Le lâcher prise veut dire, à un moment donné, se mettre en danger, quoi, sortir de sa zone de confort. Et puis faire confiance. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir autour de la table un conducteur de métro parisien avec un businessman qui avait 3 ou 4 brasseries à Lyon et une chaîne de restauration aux États-Unis. Et donc ces gens-là, a priori, ils ne devraient pas... Il y a peu de chances qu'ils se croisent un jour dans la vie, sauf peut-être pour un voyage au Spitzberg ou ailleurs. Et donc ce qui nous unit, c'est des discussions autour de la photographie. Beaucoup, beaucoup de questions sur... ce qu'on a vu, ce qu'on aurait aimé voir, ce que l'un a fait et l'autre se dit, ah bah zut, ce que t'as fait c'est super, j'y ai pas pensé. Et donc du coup ça permet aussi de s'enrichir les uns les autres et puis pour le jour suivant peut-être d'imaginer de nouvelles approches de la photo. Alors, je pense que pour faire une bonne photo il faut prendre le temps de sortir son œil du viseur. Et prendre le temps de profiter de ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de vivre. En numérique, en mode rafale, on a l'impression d'avoir des machines à coudre qui se déclenchent. Je pense qu'il faut juste profiter de l'instant présent et pour faire une belle image, la construire. Et pour la construire, il faut vraiment avoir une vision globale de son environnement. Et savoir ce qu'on a réellement envie de photographier. Et puis parfois juste profiter, quoi. C'est-à-dire que les images, elles se font certes dans les disques durs, mais elles se font aussi dans la tête. Je crois que ça fait partie intégrante du photographe animalier d'attendre parfois pour rien en plus, hein. C'est d'ailleurs souvent le cas, on attend en espérant qu'il se passe quelque chose et puis il se passe rien. Et puis parfois on attend et c'est l'énorme cadeau à la fin, donc ça aussi ça arrive, heureusement. C'était il y a quelques années, ça devait être en 2014 je pense, mois de juin, Spitzberg, et on voit un peu haut dans la montagne, sur la neige, un petit monticule et on se rend compte que c'est un dos d'ours. Et je crois qu'on a cumulé 14 heures d'attente avant de voir ce qui allait se passer. Au final, j'ai réveillé tout le monde à 3 heures du matin parce que la femelle finalement a commencé à bouger. On a réalisé qu'elle avait deux petits oursons de l'année, donc il devait avoir 6 mois. Et à un moment donné, elle a traversé avec ses deux petits une espèce de petit chenal où la glace est un peu plus fine. Et donc, du coup, on l'a vu nager, ressortir, et là, elle était pile en contre-jour. Donc, la photo, pour vous la décrire, il faut imaginer au loin, sur la ligne d'horizon, les montagnes du Spitzberg. La banquise, donc cette glace en contre-jour qui est plus assez argentée, presque cristalline. Et donc la silhouette de ces trois ours, la femelle en tête et les deux oursons derrière qui courent pour essayer de rattraper leur mère qui avance trop vite. Voilà. On a eu une rencontre et un moment incroyable avec... avec cette femelle et ses deux oursons qui, à un moment donné, sont montés sur son dos. Enfin, c'est vraiment un moment magique. Et pour ça, il faut attendre. Et c'est compliqué parfois de faire comprendre ça. C'est-à-dire que ce sont les animaux qui décident. Ce n'est pas à nous de décider d'aller les voir s'ils sont tranquilles en train de dormir. On attend qu'ils bougent avant de bouger.
À l'ouest de l'archipel. Plus d'une vingtaine de morses sont affalées sur la plage, mais je souhaite réaliser une image différente. Je me positionne un peu à l'écart de la colonie afin de ne pas couper les morses de l'océan, leur zone de retranchement. À plat ventre, face à la mer, les coudes dans l'eau, j'attends un jeune morse curieux. Au bout de 20 minutes, à ma grande surprise, le gros mâle de la colonie qui surgit devant moi, à seulement une dizaine de mètres. L'animal est énorme. Il s'approche très près, 10 mètres, 5 mètres, puis se redresse et me domine complètement alors que je suis allongée. Mon 200-400 mm est trop long, et sans geste brutal, je passe au 70-200 mm, 2.8. Je prends quelques images. Il se rapproche encore. Je fais jouer la bague du zoom. 130 mm, 110, 90. Il est vraiment tout près. L'animal me regarde intensément pendant une minute qui me paraît une éternité. Je ne bouge pas. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je sens son odeur, j'entends son souffle, entre la fascination et l'envie de prendre raisonnablement mes distances. Seuls quelques mètres me séparent de lui. Après m'avoir jaugé et s'être redressé bien au-dessus de moi, il s'éloigne un peu. Il commence alors à frapper l'eau avec ses nageoires sans me quitter du regard. Provocation, intimidation, curiosité. Puis il tombe brusquement sur lui-même et disparaît sous l'eau.
Une fois, on était en Zodiac au Spitzberg et... on naviguait autour d'un iceberg qui était posé, qui était très plat, donc a priori qui ne pouvait pas se retourner. Et on était pourtant à bonne distance, hein, y a pas de problème, la bonne distance de sécurité. Et d'un seul coup, pas très loin du Zodiac, il y a un énorme morceau de glace, mais très très long, de 30 ou 40 mètres de long, qui est remonté comme un ascenseur à pleine vitesse du fond de l'océan en fait. Et en fait, c'était certainement un morceau de glace qui était posé au fond et qui s'est décroché de la partie de l'autre partie et donc qui est remonté mais comme une balle. Et si on était passé en Zodiac à ce moment-là, je pense qu'on aurait fait un saut de plusieurs mètres de haut et voilà, ça aurait pu être très compliqué. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'on n'était pas passé loin. En hiver 2012 de mémoire, et j'étais donc le long de la banquise et on était trois, je sortais de ma tente et j'entendais un bruit vraiment bizarre. Je me demandais si c'était pas un phoque, comme une espèce de ululement bizarre régulier. Thank you. Et je ne comprenais pas ce qui se passait parce qu'on était dans... Vraiment, il n'y avait rien autour, que de la glace, de la neige. Et je me suis rapproché de ce son et je voyais absolument rien devant moi. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est un phoque qui se trouve entre... Un jeune phoque qui se trouve entre deux couches de glace. Bon, je me dis, peut-être que c'est ça. Je me rapproche. Et à hauteur d'homme, je ne comprends pas. Et je décide de me mettre à plat ventre pour essayer de voir ou d'entendre ce qui se passe. Et j'ai compris une fois que j'étais à plat ventre, c'était l'ondulation de la banquise. En fait, à hauteur d'homme, 1m80, on ne se rend pas compte, mais quand on pose ses yeux vraiment au niveau de la banquise, on se rend compte à quel point elle ondule. Et en fait, c'était un frottement de deux couches de glace qui faisait vraiment un bruit. Et j'ai compris. Là, j'ai compris ce qui se passait. J'avais imaginé plein de choses. Et tout sauf la glace qui... deux bouts de glace qui frottaient l'un contre l'autre de manière très régulière par l'ondulation des vagues en dessous de la glace. Le Norvégien qui était avec moi m'a expliqué qu'une glace solide, en fait, était très, très souple. Et la glace qui casse est une glace qui est trop fine, en fait. Voilà. La glace bien costaud est une glace qui ondule. Récemment, il y a un scientifique qui m'a parlé. Là. Il m'a expliqué que la présence de neige et de glace activait des ions positifs, je crois, ou négatifs, je ne sais plus trop. Et que ça générait sur le corps une sorte de... ça générait des sortes d'endorphines positives ou voilà, j'arriverai pas à donner les bonnes explications. Bref, il m'a donné une explication purement physiologique et scientifique qui m'a vachement déçu.
Après le virage, c'est terminé. Les prises de son naturalistes sont de Fernando Roussen, la musique des groupes Sundown et de l'artiste Thomas Conner. Lecture tirée du livre de Benoît Clouet, 80 degrés Nord, disponible aux éditions Stellar. Merci à Benoît Clouet d'avoir accepté mon invitation au voyage et à Damien Fourcault pour son écoute et ses conseils précieux. Interview, montage et mixage, Cécile Préfol. Vous pouvez réécouter et podcaster cet épisode sur le site de Jet FM et sur la page Facebook des Hommes en boîte.
On est seul dans la nature à admirer la beauté du monde. Ouais, forcément, c'est autant... pour les yeux que pour un cheminement total, quoi. Le fait de revenir, ça met fin à une chose qui... du coup, ça, ce qui laisse place au renouvellement, à autre chose, soit un nouveau voyage. Et comme je reviens régulièrement, que je vois qu'à chaque fois c'est différent et à chaque fois j'ai des nouvelles rencontres, le fait qu'il y ait un début et une fin, ça permet de tout de suite rebasculer dans un nouveau projet, dans un nouvel... de se reprojeter directement vers la suite, quoi.